Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être là. Ben, c'est définitivement la nouvelle du jour. Le fameux sommet a eu lieu, le sommet entre Kim Jong-un et Donald Trump. Rappelez-vous, il y a quoi, un mois et demi de ça, il menaçait de s'envoyer des bombes nucléaires par la tête. Et mettons deux mois plus tard, ben il se rend compte et puis il se serre la main, pas une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, on ne les compte plus. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que ça a donné quelque chose ou c'était juste une belle parade pour les médias? Il y a Loïc Tassé, notre spécialiste des questions asiatiques, qui va être avec nous dans un instant. Mais d'abord, on va aller à Singapour, où s'est tenu le fameux sommet, y rejoindre une journaliste là-bas, Carrie Newton. Bonjour.
Bonjour, comment allez-vous?
Très bien, Carrie. Très bien, merci de vous joindre à nous parce qu'il est tard chez vous, il est minuit si je ne m'abuse.
Exactement.
Dites-nous d'abord, parlez-nous un petit peu de l'atmosphère là, de cette folle journée à Singapour.
Alors, ça a été une folle et une historique journée, vous l'avez dit, effectivement, 3h40 d'entretien entre Kim Jong-un et Donald Trump. Alors, ça a commencé par cette fameuse poignée de main sur fond de drapeaux, les drapeaux respectifs de la Corée du Nord et des États-Unis. Les deux hommes étaient arrivés un peu le visage serré et puis ils se sont décrispés assez vite, hein, tout de même en 10 secondes. Il y avait un petit sourire. Donald Trump était assez tactile d'ailleurs vis-à-vis de Kim Jong-un, c'était assez étrange. Et puis ils sont rentrés pour un tête-à-tête qui a duré 45 minutes où déjà ils se faisaient des petits compliments et puis leurs équipes les ont rejoints pour une réunion plus sérieuse. On en était à la troisième poignée de main. Et puis, en fait, si vous voulez, et à la fin, ils se sont assis autour d'un déjeuner, ils ont fini de travailler comme ça et ils ont décidé d'aller signer une déclaration conjointe. Ce n'est pas un accord encore, c'est une déclaration conjointe. Alors, ce qui est très intéressant, en revanche, c'est que dans tout ce cérémonial, dans ces 3h40, on a tout de même vu qu'il y avait une espèce de rapprochement entre les deux hommes. Donald Trump parlait d'avoir créé un lien. Et je peux vous dire que ça se voyait quand on suivait les choses en direct. On voyait bien qu'il y avait, on voyait Kim Jong-un qui se décrispait, qui se relaxait, qui était de plus en plus détendu. Ils se sont fait plein de compliments. Hein. Kim Jong-un a remercié le président américain. Donald Trump a vanté les dons de négociateur du jeune leader. Donc voilà, mais c'était assez émouvant. Maintenant, vous avez raison. Vous avez raison. Vous allez me poser, à mon avis, la question qui fâche.
Oui, ben c'est ça. Une fois qu'on est allé au-delà des poignées de main, des sourires et de la décrispation générale, qu'est-ce qu'on a atteint comme résultat? Qu'est-ce que ça a donné tout ça là?
Effectivement, quand on a vu l'accord se signer, si vous voulez, il y avait deux pages et là tout de suite, très rapidement, la photo a fuité sur Twitter et on s'est bien rendu compte qu'il n'y avait certainement pas ce que Mike Pompeo avait dit hier qu'il voulait avoir dans l'accord d'aujourd'hui. Vous rappelez que les Américains avaient dit que il fallait absolument que la dénucléarisation soit complète, vérifiée et irréversible, et ça n'a pas été écrit. Alors Trump, ce qui s'est passé, c'est que comme l'accord était très court, la déclaration était très petite, il a décidé de monter de donner une grande conférence de presse. Je pense que les correspondants de la Maison Blanche nous ont dit qu'ils n'avaient jamais vu ça. Un Trump détendu, qui a fait des blagues, mais une conférence de presse très, très longue, où il s'est expliqué, il a pris une quinzaine de questions, parce que, si vous voulez, il avait besoin qu'on lise entre les lignes de la déclaration conjointe. Il avait besoin qu'effectivement, on voit ce sommet comme un succès et il en a besoin de lui. Bon, en revanche, il a tout de même affirmé que les 32 000 soldats américains restaient stationnés autour de la péninsule, que les sanctions n'étaient pas levées tant que la dénucléarisation n'était pas validée. Donc, vous avez raison, ça n'a pas évolué de beaucoup.
Alors, on devrait retenir quoi de ce sommet, Carrie Newton, à votre avis? Est-ce que c'est quoi? C'est ce premier contact?
Oui, alors c'est plus que ce premier contact. Il y a ce premier contact, parce que ça met quand même fin à 70 ans de gel des relations. Mais il y a surtout ce dialogue dont il s'est instauré, mais il y a surtout ce leader nord-coréen qui sort de son isolement, qui a fait ses premiers pas sur la scène diplomatique en signant cet accord, qui a fait ses premiers pas devant... Mais il y a eu beaucoup de premières fois pour Kim Jong-un ces deux derniers jours. Il s'est montré devant des journalistes étrangers. Il a fait hier, il nous a surpris, il a commencé à aller faire une petite visite, un petit Singapore by night. Il a été visité trois attractions, il s'est baladé, il a traversé un pont, il a même été tout en haut des trois tours du Marina Bay Sands, vous savez, là où il y a la piscine à débordement.
Oui, oui.
C'est un hôtel quand même qui appartient à un des super amis de Trump. Il faut le savoir. Ouais. Donc, en fait, on ne savait pas comment interpréter. Moi, ma collègue, par exemple, qui est correspondante à la Maison-Blanche, disait « Ouh là là, ça va être explosif, ça va être la guerre des égos, Trump va mal le prendre, il va quitter les négociations demain. » En fait, les deux hommes sont tellement imprévisibles, on ne pouvait pas savoir. Mais tout de même, c'est un bon signe. Je vais vous dire pourquoi, parce que quand on regarde surtout du côté de nos amis, de nos de collègues sud-coréens, ou même j'ai rencontré des sud-coréens aujourd'hui, ils étaient très, très, très émus. C'est-à-dire que les Japonais n'étaient pas très contents parce qu'ils n'ont pas évoqué le sort des otages japonais qui sont restés coincés en Corée du Nord. Les Hongkongais disaient « Oh ben, c'est un accord qui est quand même très faible, il n'y a rien de nouveau ». Mais on salue quand même l'initiative de Donald Trump d'avoir eu, si vous voulez, avec, même si ça a été par tweet très, très, très violent interposé, le courage d'inviter Kim Jong-un, et puis on a eu de la chance que Kim Jong-un dise oui finalement, et ça, ça est vraiment quelque chose de nouveau. Et les Coréens du Sud disent, pour nous, c'est une sacrée victoire, on vous demande d'être plus patients. C'est quelque chose qui nous manque à nous occidentaux, mais les Coréens du Sud, eux, le savent, que la connaissent bien la patience, et pour eux, ils avaient l'air très optimistes sur, cette espèce d'ouverture.
Très bien, Karine Houghton.
Il y a une autre motivation tout de même. Hein. Pourquoi Trump a passé autant de temps et il fallait absolument qu'il passe du temps et qu'il ait l'impression que ce sommet soit un succès? C'est pour une histoire de politique intérieure. C'est parce qu'il joue certainement en ce moment les midterms et sa réélection.
C'est sûr, ça lui fait une victoire et ça nous change du Trump très, très, très déplaisant qu'on a vu à l'œuvre ces derniers jours. Carrie Newton, journaliste correspondante à Singapour. Merci beaucoup, Carrie, et bonne fin de topo.
Merci beaucoup.
Salut. Et maintenant, Loïc Tassé est avec nous. Bonjour, Loïc.
Bonjour, Bernard.
Alors, toi, quelle évaluation tu fais d'abord des concessions que les États-Unis ont fait lors de ce sommet, que Trump a fait lors de ce sommet? Est-ce que les États-Unis sortent gagnants ou perdants, à ton avis?
Moi, je pense que les États-Unis ont fait trop de concessions. Néanmoins, c'est quand même positif. Je ne vais pas dire que c'est négatif ce qui s'est passé là. C'est positif, comme tout le monde. Je suis heureux qu'ils se soient rencontrés. C'est un pas dans la bonne direction.
Pourquoi c'est positif? Parce qu'on a moins de risques de conflits.
Ils se sont rencontrés, ils se sont parlé. Déjà, ça, c'est énorme.
Donc, ils risquent moins de s'envoyer des armes.
Et il y a des négociations.
Des missiles par la tête.
Exactement. Il y a des négociations. Il y a un processus de négociation qui a été enclenché, qui est en cours. Le plus difficile commence. Hein. Il va falloir négocier toutes sortes de choses. Entre autres, possiblement, la réunification des deux Corées. Comment dénucléariser de facto? Ça va être difficile à faire. Mais tu me dis, qu'est-ce qui a gagné? Ben, à mon avis, c'est Kim. Pourquoi? Parce que, d'abord, le président américain a traité d'égal Kim Jong-un. Personne n'avait fait ça véritablement avant. Un peu, quand même, le président chinois, puisqu'il l'avait rencontré deux fois, et le président sud-coréen. Mais quand même, c'était une personne qu'on ne devait pas vraiment rencontrer sur la scène internationale.
C'est un infréquentable. Il est devenu fréquentable.
Complètement. Il va probablement y voir Poutine. Il faudra s'attendre à ce qu'il aille en Turquie aussi. C'est fort possible qu'il entreprenne une série de voyages. Probablement pas avec des avions nord-coréens, parce qu'ils sont un peu
D'ailleurs, il s'est rendu à Singapour à bord
d'un avion chinois, bien sûr.
Parce qu'il y avait plus de chances de se rendre.
Exactement. Donc, première chose... Oui. Et c'est même pas une blague, là, on rit, mais c'est ça. Alors, première chose, il lui a donné cette légitimité internationale. Deuxièmement, en conférence de presse, comme Trump a quand même dit des choses étonnantes, il a dit que éventuellement il y aurait un retrait des bases américaines en Corée du Sud. Et aussi,
il a dit on arrête les exercices militaires.
On va arrêter les exercices militaires
avec la Corée du Sud. Et éventuellement, on va quoi? Y es-tu allé jusque-là?
Écoute, je viens de le lire dans le journal sud-coréen Herald Tribune. Déclaration, oui. Éventuellement, ils pensent sortir les bases américaines de là.
Oh boy.
Alors, tu dis, oh là
moi,
là.
Moi, je me disais, là, il avait fait un pas en disant, on arrête les exercices militaires conjoints avec l'armée sud-coréenne. Mais je me disais, au moins, ils gardent la carte des bases américaines qui, elles, restent ouvertes. Et là, tu dis qu'il aurait mis ça sur la table
ça
aussi?
Ça serait aussi sur la table.
Il y a vraiment beaucoup de données.
Et enfin, le communiqué, comme la journaliste le disait tout à l'heure, inclut pas du tout les termes d'une dénucléarisation irréversible et vérifiable. Alors ça, du point de vue américain, il a donné beaucoup de choses.
C'est-à-dire le mot dénucléarisation est là, mais pas complète, vérifiable et irréversible. En fait, il n'y a pas d'échéancier. Il dit on va dénucléariser, mais on ne dit pas quand, puis on ne dit pas à quelle vitesse.
Puis comment? Alors, tu sais, ça laisse beaucoup de latitude.
Ben, il pourrait... D'ailleurs, c'est pas la première fois qu'il s'engage à dénucléariser.
C'est ce qu'on disait, tu sais, quand je te disais, à mon avis, il va diminuer, mais je pense pas qu'on négocie une complète dénucléarisation, qu'on arrive à obtenir une complète dénucléarisation de la Corée du Sud.
Non, parce que c'est devenu comme l'assurance-vie du régime nord-coréen, l'arme nucléaire.
Exactement. Mais remarque bien aussi que Kim Jong-un a fait des concessions.
Lesquelles?
Ben, c'est une concession qui n'a pas l'air évidente pour nous. Mais d'abord, il a serré la main de Trump. Et Trump...
Trump, c'est le diable.
C'est le diable en
pour
personne.
Pour le régime, c'est le diable.
C'est l'inverse de Kim Jong-un qui est adulé, adoré. Lui, en termes de propagande, c'est le diable. Il lui a serré la main, il a mangé avec lui, il a eu des bons mots pour lui.
Donc, tu as des Nord-Coréens qui disent... qui sont pas contents là, que leur chef aille
dans leur tête, ça fait un court-circuit complet.
Avec tout ce qu'on leur a enseigné depuis le début de...
Et ça, c'est dangereux pour lui parce que ça veut dire qu'on remet en cause toute la propagande. Pire que
donc
ça,
il se met à risque. Kim Jong-un, là où il fait une concession, c'est qu'il se met à risque avec sa propre gang de radicaux anti-américains.
Exactement. Et okay? Surtout, si jamais ça marche plus, si dans un an, dans deux ans, dans six mois peut-être, après les élections de mi-mandat, Trump lâche un tweet en disant « c'est fini les négociations »,
là, Kim Jong-un risque de se retrouver dans le vide.
Ben, comment expliquer ça à sa population? Il court un risque là-dessus.
Y compris avec ses généraux et sa garde.
Absolument.
Parce qu'il y en a, certainement autour de lui.
On sait pas qui
sont des anti-américains.
Absolument.
Là.
Et il y en a qui veulent son poste aussi. C'est clair. C'est toujours comme ça. C'est pas une grande.
Ben oui.
L'autre chose aussi où il a fait des concessions, c'est qu'il a quand même accepté le principe de limiter et d'encadrer la dénucléarisation. C'est-à-dire que il va y avoir, oui, quand on parle de dénucléarisation, ça veut dire que des gens de l'extérieur vont venir regarder ça. Il va y avoir,
des inspecteurs.
Oui.
Ça, c'est dans le.
Non, mais quand on parle de dénucléarisation, faut bien que ce
soit. Faut
accepter que c'est encadré, qu'il y a une limitation qui va venir à
et une vérification.
Ouais. Et une vérification. Ça, c'est nouveau. Ouais. Et c'est très important aussi. Donc, là-dessus, quand même, il a cédé. Mais je pense qu'en gros, pour le moment, et c'est la première manche. Dans cette première manche, je dirais, oui, Kim Jong-un a gagné davantage que Trump. Mais c'est juste la première manche. Il y en a d'autres qui vont venir par la suite. Il faudra voir dans l'ensemble, dans du processus, comment ça va finir.
Mais dans tous les cas de figure, on a écrit l'histoire aujourd'hui.
Absolument.
Là. Que ce soit de la bonne ou de la moins bonne, que ça s'avère être une erreur éventuellement ou pas,
oui.
On a écrit l'histoire aujourd'hui.
Oui, on a écrit l'histoire. Et Trump prend un très grand risque, hein, parce que ce que ça signifie en ce moment, c'est que la Corée du Nord va commencer fort probablement à pouvoir commercer un peu plus. Elle le fera pas officiellement, mais c'est sûr que les sanctions sont moins fortes. Mais si jamais ça tombe, cet accord, si jamais on avance... Comment est-ce que Trump va réussir à faire un front commun comme il y en a eu un contre la Corée du Nord, comme il y en a eu un auparavant? Je ne suis pas sûr que Trump ait l'autorité pour le faire et le leadership pour le faire comme les autres présidents américains l'ont eu. Et là-dessus, si tu veux, je pense que Kim Jong-un gagne quelque chose aussi à plus long terme.
En tout cas, c'est très intéressant à suivre.
Oui.
Et évidemment qu'il va y avoir des rebondissements. S'il y a une affaire dont on est certain dans ce dossier-là, c'est qu'il va y avoir des rebondissements.
Qu'est-ce qui te fait penser ça?
D'autant plus qu'avec...
Le caractère de Trump et de
Kim Jong-un. C'est comme un... C'est deux imprévisibles.
Ça, c'est le terme gentil.
C'est le terme gentil. Alors, oui. on va reprendre ça un petit peu plus en détail tout à l'heure dans la chronique des affaires internationales. Merci, Loïc Tassé.
C'est un plaisir.
Dans un instant, on continue sur notre, comment dire, notre questionnement autour de Trump. Est-ce que vous pensez que boycotter les produits américains, c'est une bonne idée? Parce que là, il y a une épicerie à Montréal, sur le plateau Mont-Royal, qui a décidé à la fin du mois de mai de diffuser dans son interphone, un message encourageant les consommateurs à dire non aux produits américains. Trois semaines plus tard, qu'est-ce que ça a donné? Est-ce que ça fonctionne? Et on va ouvrir les lignes, on va vous demander, est-ce que boycotter les produits américains, c'est une bonne idée? Vous nous appellerez dans un instant.